Bonjour et merci de nous être fidèles tous les week-ends au sommaire du Grand Face à Face jusqu'à 13h, les humoristes d'Inter, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis le débat du samedi, quelques jours après le décès de Robert Faurisson, le chef de file des négationnistes français est mort, mais pas ses idées. Invité de France Inter, il est avocat, défenseur d'une idée maximaliste de la liberté d'expression. Il est même hostile à la loi Guesso qui punit le négationnisme. Une loi contre-productive à ses yeux puisqu'elle ferait des négationnistes des martyrs et qu'en les renvoyant dans la clandestinité, elle ne ferait qu'accroître leur audience. Alors faut-il des limites à la liberté d'expression? Emmanuel Pierre a publié Nouvelle morale, nouvelle censure chez Gallimard et il viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Natacha Polony et Raphaël Glucksmann sont fidèles au poste. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver les amis et comme tous les samedis, l'actualité vue par les humoristes d'Inter. Et cette semaine, c'était le retour sur le devant de la scène d'Alain Juppé qui publie un dictionnaire amoureux de Bordeaux. Alain Juppé, invité de la matinale de France Inter jeudi dernier et un comité d'accueil l'attendait.
Mais non mais on s'en fout de Coquerel. On est insoumis, mais on
mais
est
vous insoumis. Pas
oui, on est une branche des insoumis.
On est les insoumis avec Alain Juppé.
Et voilà, ouais. Depuis que Papy Méluche a fait une descente d'organes devant une descente de flics, on était perdus.
Ouais, mais avec toi, Alain, on reprend espoir.
Allez, fais pas le con, Alain, reviens.
Ouais, on sait que t'as toujours la pêche.
La super pêche, Alain.
On t'a vu arriver en skateboard à la maison de la radio.
T'as trop de swag pour Bordeaux.
Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? C'est la capitale de la hanche en plastique, Bordeaux.
Mais ouais, t'es jeune, tu joues au beer pong. Ouais. Des fois, tu fais même pas tes lacets sur tes mocassins à gland.
T'es un déglingo, Alain, t'es un foufou.
Si tu savais comme tu nous manques, Alain.
Oh là là.
On a pas su mesurer la chance de t'avoir à l'époque.
On a toujours pensé que t'étais de droite, mais on avait tout faux.
Mais évidemment, c'est comme pour Valls. Pendant des années, il y a des gens qui ont cru qu'il était socialiste. Tu te rends compte de ça?
Le dernier espoir de la gauche, c'est toi, mon Péju.
Mais oui, t'es de gauche, c'est évident, on le sait, t'es de gauche.
En tout cas, par rapport à Wauquiez, t'es de gauche. Hein. Dis pas le contraire. Hein.
Ouais, bah là, c'est quand même pas un critère, parce que même Gollnisch, à mon avis, par rapport à Wauquiez, il est de gauche.
Ouais, c'est pas faux.
Allez, reviens, Alain, on n'en peut plus, là, de ton fils spirituel, là, Gérard Philippe.
Édouard Philippe.
Ah, c'est Édouard Philippe. Ah oui, je me disais, il joue mal.
Ouais, bah oui, on dirait une asperge dans le costume de Batman.
Allez, reviens, Alain, la gauche a besoin de toi. Voilà.
Tu répètes que t'as aucune ambition personnelle.
Ça, c'est typiquement de gauche, Alain.
Ouais, en plus, tu t'es fait rétamer aux dernières élections.
Ah bah ça aussi, c'est la gauche, Alain. C'est la louise, c'est la tradition de la gauche.
Si ça se trouve, t'es même écolo.
Je suis sûr que t'es vegan.
Ah, tu joues du djembé.
T'es un zadiste, Alain. T'es un zadiste.
Alain, tu nous manques.
On n'est pas les seuls à souffrir de ton absence. T'as vu dans quel état elle est, Aurore Berger, aujourd'hui?
Oh, la pauvre, elle va pas bien du tout. Ça va faire 2 ans qu'elle a pas changé de parti.
Oh. Allez, viens, on va t'emmener dans les manifs. Ça va te rappeler 95, Alain.
Ouais, bon, t'étais de l'autre côté, mais tu vas voir, c'est chouette aussi les merguez.
Et puis les casseroles, tu t'en fous, Alain. T'en as plein.
T'es pas du genre à t'affoler pour une perquisition, toi, du RPR à l'UMP, les affaires, rester la routine.
Allez, bring back our Alain.
Ah, et puis la dernière fois qu'un type de gauche a été élu, c'était François Hollande, c'est vraiment la preuve que ça peut arriver à n'importe qui.
Allez, Alain, fais pas ton Jospin, là.
Allez, avec nous, Alain.
C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, le héros national, ce sera toi, Alain.
Les Insoumis avec Alain Juppé, Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Intéressant le destin d'un homme qui a cru devenir président, Natacha, et qui a l'air pourtant heureux aujourd'hui.
Qui a l'air heureux, mais qui continue à essayer de peser sur les décisions politiques. C'est pas un retraité de la politique, Alain Juppé. Il développe cette image d'amoureux de sa ville, mais derrière, il est très, très, très présent.
Il aurait fait un bon président?
Oula,
Raphaël.
Je ne sais pas.
Vous êtes vraiment cruel, mais il y a, j'imagine, non, chez certains, une forme de regret.
De nostalgie.
Comme on disait, il y a longtemps, la France a raté Barre, a raté Raymond Barre. Certains pensent aujourd'hui que la France a raté Alain Juppé.
Moi, je pense surtout que la France a raté Michel Rocard, en fait. Donc.
Écoutez, si on veut aller sur les grands ratages, je penserais plutôt que la France a raté Philippe Séguin. Justement, Alain Juppé a fait en sorte qu'on rate Philippe Séguin.
Il faut quand même
rappeler le parcours d'Alain Juppé. À la tête du RPR en 1990, où, à l'époque où le RPR expliquait qu'il fallait zéro immigration, un programme quasiment proche de la préférence nationale. Puis ensuite, quand il arrive aux affaires avec Jacques Chirac, c'est lui qui fait en sorte que Jacques Chirac trahisse ses promesses de campagne sur la fracture sociale. Enfin bon, je veux dire, il y a quand même un parcours.
Le grand drame de Natacha, c'est la défaite des souverainistes à droite et de Seguin. Mais moi,
les souverainistes à gauche.
C'est l'échec de Michel Rocard.
Il y a 1978, l'échec de Michel Rocard face à François Mitterrand. Et puis, encore plus fondamental, ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est quand même l'échec de Blum et Meyer face à Guy Mollet. Ça, c'est le drame de la France, Ali. Je sais pas, vous arrivez à vivre...
Ah, le molettisme, oui.
Malgré le triomphe de Guy Mollet contre Blum et Meyer. Non, j'étais pas né, mais ça m'empêche quand même de dormir. J'en fais des cauchemars. Et je pense que c'est symbolique de fiasco de la gauche, c'est-à-dire le triomphe de quelqu'un qui, franchement, croyait pas grand-chose de ce qu'il disait, face à Blum et Meyer, qui était quand même la chance de la gauche, d'une gauche humaniste en France. Et voilà, donc plutôt qu'Alain Juppé, je regrette Blum Meyer.
Le problème, c'est si vous faites le bilan de la social-démocratie sur le XXe siècle, c'est tragique. Moi, je me réfère à ce que m'a toujours expliqué Jean-François Kahn. La social-démocratie a toujours trahi.
Non, puisqu'on en est là, je suis... pas d'accord avec ça. La social-démocratie, c'est quand même ce qui a permis à nos sociétés de vivre dans un système plus ou moins équilibré pendant 40 ans. Donc, la social-démocratie aujourd'hui, c'est de bon ton de dire que c'est mort, que c'est fini.
Elle se porte mal.
Elle se porte très mal. Ça, vous êtes perspicace.
Même si une étude de la Fondation Jean Jaurès estime qu'à peu près 30% des Français sont encore séduits par les idées social-démocrates. Ça ne veut pas dire qu'ils votent socialistes.
Non, mais la social-démocratie en tant que structure de pensée et structure partisane et va mal dans l'ensemble des pays occidentaux. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on proclame la mort de la social-démocratie, j'aimerais qu'on retire un peu les sourires que tout le monde arbore, parce que finalement, si nous vivons dans des sociétés paisibles, avec une forme d'équilibre social jusqu'à ces dernières années, c'est quand même grâce à la social-démocratie.
Non, mais Raphaël,
encore un mot, Natacha.
D'abord, historiquement, la social-démocratie n'a jamais été capable de s'opposer au fascisme, et encore aujourd'hui, pendant des décennies, la social-démocratie a fermé les yeux sur les dangers qui montaient, et nous sommes dans une situation où, pour le coup, il peut y avoir du vrai fascisme. Or, ce sont les dénis pendant des années qui ont abouti à ça, et sur le fait que les gens adhèrent au modèle social-démocrate, ils adhèrent au compromis social et politique qui a été celui qui a permis à la France, depuis l'après-guerre, de construire une société équilibrée. C'est pas la social-démocratie, c'est ce compromis social et politique qui a été porté par un ensemble de forces qu'on peut définir, mais il n'y a pas que la social-démocratie.
Et qui vient très clairement du logiciel social-démocrate, c'est-à-dire la
combinaison... Qui n'a pu être imposé que parce qu'il y avait l'opposition et la peur du soviétisme.
Ce qui vient très clairement du logiciel social-démocrate et qui a créé ces sociétés-là. C'est la social-démocratie qui a dit qu'il fallait combiner démocratie avec ambition de solidarité sociale. Donc ensuite...
Non. On va en rester là.
Parce que c'était pas prévu qu'on discute de ça. Mais...
Non, on va revenir à l'actualité de la semaine et on reprendra cette discussion passionnante une autre fois.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Mais j'imagine que vous allez aussi vous opposer sur ce sujet, le budget de l'Italie qui était au centre des attentions cette semaine avec la Commission européenne qui a retoqué le budget italien proposé par la coalition populiste au pouvoir à Rome. Écoutez Matteo Salvini, c'était le 24 octobre.
Personnellement, je suis prêt à rencontrer demain le président de la Commission européenne pour lui expliquer comment l'Italie va se développer grâce à cette initiative. Mais personne ne tolérera qu'un euro soit retiré du budget.
Et c'était intéressant de voir sur la scène politique chacun choisir son camp, celui des règles et de la Commission ou celui du gouvernement italien. Écoutez la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Il était interrogé mercredi à Strasbourg et le leader de la France insoumise déclarait ça.
On voit bien que c'est une dépossession de la souveraineté des nations, des États, des peuples, quoi qu'on pense des choix qu'ils ont faits. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne, même si on désapprouve le gouvernement italien, ce qui est notre cas, tout en désapprouvant la Commission européenne.
Natacha.
D'abord, il faut regarder calmement les faits économiques.
D'abord, il faut choisir son camp.
Non, avant de choisir son camp, on regarde les faits. Et on regarde où en est l'économie italienne.
C'est moins drôle.
Oui, je sais que c'est moins drôle. Mais ça permet après d'avoir un avis à peu près fondé. Donc, l'économie italienne, aujourd'hui, nous avons un déficit qui va passer à 2,4% du PIB. la règle, les critères de Maastricht, c'est 3%. La France fait bien pire.
Mais donc, vous ne tenez c'est pas dans compte les règles. De la dette.
Ensuite, oui, la dette. La dette italienne est possédée en majorité par des Italiens. C'est-à-dire qu'il y a moins de dépendance au marché financier que sur la dette française, par exemple. Donc, ça évite les risques que nous avons si nous augmentons indéfiniment notre dette.
Alors,
ensuite,
fait,
il y a le commerce extérieur qui est positif pour l'Italie parce que l'Italie n'est pas encore désindustrialisée comme la France. Donc, économiquement, l'Italie, elle n'est pas dans les mêmes conditions que nous, et elle respecte les critères de l'Union européenne. Donc il y a un truc absolument ahurissant à voir ce budget refusé, ce qui est une première dans l'histoire de l'Union européenne.
Raphaël.
Non, malgré toute l'aversion que j'ai pour cette coalition au pouvoir en Italie, ce qui est évident dans ce qui se produit, c'est que ça doit entraîner une discussion pan-européenne sur l'attitude de la Commission et sur le sens même de l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de la discussion entre la Commission et
vous Sabine. Êtes du côté des règles et de la Commission
non,
ou du côté de la coalition
romaine?
Non,
moi je suis du côté de la politique. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de poser le fait que la politique désormais appartient à ceux qui sont contre l'Union européenne. Parce que si vous présentez l'Union européenne comme étant simplement un ensemble de règles et de normes qui dépossèdent les démocraties de leur sens même, c'est-à-dire la capacité à choisir la politique qui s'applique dans un pays, eh bien, vous aboutissez à une solution très simple. C'est qu'on va avoir le choix entre ces règles et Salvini, et les gens vont voter Salvini.
Mais est-ce qu'on peut se débarrasser des engagements
non,
pris
on
par
ne peut pas,
les
on
précédents
ne peut pas,
gouvernements?
On ne peut pas se débarrasser des engagements, mais par contre, on est en droit, puisqu'on vit dans un espace démocratique qui s'appelle l'Europe, on est en droit de poser la question de ces règles. On est en droit de remettre en cause le fait qu'une orthodoxie budgétaire devenue quasiment folle prive toute capacité au gouvernement eh bien, de changer la politique
mais
sociale.
Mais c'est vrai qu'ils ont été décidés par les États.
Oui, bien sûr, mais ils ont été élus.
Par les États qui imposent l'Union européenne.
Il y a une règle démocratique de base, ce qu'une génération a fait, la génération suivante peut le défaire. C'est ça la démocratie. Ouais. Vous n'emprisonnez pas les générations suivantes. Or là, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Il y a eu des traités, donc c'est gravé dans le marbre,
c'est fini,
c'est aberrant.
C'est un peu la crise du politique actuellement. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe aussi dans les traités internationaux. Ce qui se produit, c'est qu'en fait, on instaure des règles ad vitam aeternam, figées dans le marbre, et ensuite, qui va être responsable de surveiller l'application de ces règles? Des experts et des juristes. Or, quel est l'espace qu'il reste aux politiques? Quand le slogan du Brexit, Take Back Control, a fait à ce point de succès et est repris par l'ensemble des mouvements nationalistes, populistes à travers toute l'Europe, au lieu de s'en offusquer, il faut s'interroger sur le sens même et la légitimité de ce slogan. Il y a besoin, effectivement, que les citoyens reprennent une forme de contrôle sur leur propre destin.
Imaginons malgré tout que ça fasse exploser la zone euro, c'est un risque que pointe du doigt la Commission. Là, pour le coup, les Français que vous êtes seraient déstabilisés et critiqueraient le choix du gouvernement italien.
La Commission est en train de faire en sorte que les choix du peuple italien prennent le risque de déstabiliser la zone euro, puisque la Commission refuse de discuter avec le gouvernement italien. Or, il faut se méfier d'une chose. L'Italie est un laboratoire politique depuis des décennies. Regardez le berlusconisme qui a été cette espèce d'éclatement de la politique par la vulgarité. C'est arrivé là avant d'arriver chez nous ou ailleurs. Oui. Ensuite, vous avez eu Matteo Renzi, c'est-à-dire ce fantasme selon lequel on a... Alors, avant ça, il y a eu le gouvernement des experts. Et les experts allaient imposer une gouvernance. Ça a été un fiasco. Matteo Renzi, le Macron avant Macron, ça a été un fiasco. Et on aboutit à cette alliance entre populistes de droite, d'extrême droite et populistes de gauche. Pardon, mais il faudrait peut-être à un moment donné ouvrir les yeux sur ce que ça...
Du coup, vous êtes tous les deux du côté du gouvernement italien.
Non, non, moi je ne suis pas du côté du gouvernement italien. Je suis... très simplement, pas du tout du côté de la Commission dans son attitude.
Et donc, Jean-Luc Mélenchon a résumé le problème. On peut être contre le gouvernement italien et pour le fait que cette...
Et tout arrive, je peux même parfois être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. et donc, je pense qu'il y a un réel problème politique. Enfin, il faut arrêter cet aveuglement-là. C'est cet aveuglement qui va produire le succès des populistes à peu près partout en Europe. Il faut que la politique reprenne possession de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on assume qu'on peut débattre de ces règles.
Et justement, on va continuer de parler d'aveuglement.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, Le duel.
C'est une vidéo qu'on a absolument tous vue, cet élève qui menace sa professeure avec une arme factice dans le lycée Édouard Branly à Créteil, dans le Val-de-Marne, avec beaucoup de réactions. Écoutez notamment celle de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'était jeudi.
Le but est tout simplement d'être réaliste, d'être lucide, ne jamais minimiser, ne jamais exagérer. Il faut être subtil et fin sur ces questions. Il faut toujours avoir à l'esprit que nous avons une mission éducative et que dans les éléments de cette mission éducative, il faut savoir sanctionner.
Il y a un hashtag pas de vague qui porte la parole de nombreux enseignants. Comment répondre à ce type de situation, Natacha ? Et estimez-vous que la réponse du gouvernement, à la fois Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est à la hauteur ?
Alors, la réponse du gouvernement, elle est forcément immédiate et momentanée, alors que c'est un problème de fond. Donc la question n'est pas là, il va falloir sur le long terme réfléchir aux réponses. En revanche, ce qui est très intéressant dans ce hashtag, c'est qu'il a donné en réaction, il a fait apparaître en réaction tous les défauts, tous les drames du débat sur l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a le hashtag MeToo, là tout le monde trouve ça extraordinaire, mais là, quand les professeurs libèrent leurs paroles, tout à coup, on a premièrement les statistiques qui viennent dire « Ah mais non, mais c'est faux, ce que vous voyez n'existe pas. Pourquoi ?» Parce que les statistiques sur la violence prennent en compte uniquement les coups, les blessures. Or là, heureusement, ça n'augmente pas. Et heureusement, tous les jours, on n'a pas une prof qui est braquée par un élève. Cela dit, là, on a un deuxième cas. Simplement, la violence quotidienne que subissent les professeurs, elle ne remonte pas dans les statistiques. Pourquoi ? Parce que quand vous vous faites traiter de sale pute dans un cours, vous n'allez pas forcément le dire. Et quand vous allez le dire et que votre proviseur vous dit « Non, vous avez mal entendu ce qu'a dit l'élève », c'est ça que racontent les enseignants. Donc déjà, les statistiques masquent la réalité. Et deuxième chose, on a vu apparaître des discours de gens qui disaient « Mais attendez, ces professeurs ont mal choisi leur métier. Après tout, ils critiquent leurs élèves. Quel scandale !» Pardon, mais quand on choisit d'être professeur, c'est pas dans le but de se faire insulter, c'est dans le but de transmettre, d'éveiller des consciences, et ça n'implique pas forcément de subir de la violence.
Il y a un réel problème qui est massif, qui est la place des professeurs dans notre société. Je veux dire, on était quand même une république fondée sur les professeurs, c'est dans les hussards noirs de la république, et aujourd'hui, que ce soit les violences ou alors le statut social qui est réservé aux professeurs, le fait que, eh bien, sur un siècle, la place des professeurs, par exemple, en termes de revenus dans la société...
Mais le problème, justement, c'est le statut des profs, ou est-ce que ce sont les adultes, qui ne comprend plus certains jeunes
D'abord, le problème, c'est la place des professeurs et l'autorité qu'ils exercent. Mais l'autorité, c'est pas simplement le fait de pouvoir sanctionner. L'autorité, c'est la place dans une société. Mmh. Où est-ce qu'on se place et dans quelle position la société nous met. Et par ailleurs...
C'est beau comme du Natacha Polony.
Non, pas du tout. Enfin, excusez-moi. pas du tout, j'allais dire.
Les photos de Natacha cette semaine qui est titrée « Au professeur, la patrie reconnaissante ».
Ok.
Et qui parle de ce problème-là. C'est
aussi une question de revenus, par exemple. Oui. Auparavant, dans cette l'échelle question, des revenus.
Auparavant, la question de la vidéo du lycée.
Oui, mais c'est pas une question de revenus.
C'est
pas une question de revenus. Mais tout ça fait partie de la même dépréciation, en fait, en réalité, du professeur des écoles publiques. L'autre question, c'est qu'on fait porter à l'école, en règle générale, dans le débat sur l'école, une responsabilité trop forte pour l'école. L'école, elle s'insère dans une société, elle s'insère dans des quartiers. Et donc, c'est ces quartiers et cette société qui sont profondément malades, en fait. Et l'école, elle devient le réceptacle de problèmes qu'elle ne peut pas gérer seule. C'est-à-dire qu'on pourra mettre des policiers partout, on pourra changer des règles de fonctionnement au sein de l'école. N'empêche que la violence sociale générale qui entoure l'école, eh bien, arrivera toujours à pénétrer dans ces murs.
Natacha, vous distinguez la manière dont le hashtag MeToo a été accueilli par la société, par les sociétés, notamment ici en France, et la manière dont le hashtag pas de vague, lui, est accueilli, comme si la parole des profs était accueillie d'une toute autre manière que la parole des femmes qui se plaignaient de la domination masculine, des agressions.
Oui, parce que là, c'était progressiste et c'était formidable, alors que curieusement, les professeurs, c'est pas progressiste quand ils disent la réalité. Vous savez, on en est à souhaiter que Gérald Davet et Fabrice Lhomme, les journalistes du Monde, lancent une grande enquête sur les violences que subissent les profs, parce que Inch'Allah. Peut-être que comme ça, on pourra enfin en parler réellement.
On en parle, sauf que
c'est il y a encore du déni. Et surtout, je pense que là
du
où
déni.
Vous avez, bien sûr,
il y avait
déni,
du déni
absolu.
Sur le.
Oui, mais vous avez raison mais sur un point, Raphaël, c'est-à-dire que c'est un ensemble, la place des professeurs. Enfin, vous avez raison sur les deux points que vous avez abordés. La question de la place des professeurs. Les sociétés où l'école va bien sont en général des sociétés où les professeurs sont davantage rémunérés. Nos professeurs sont payés deux fois moins que les professeurs allemands. Ça a un sens.
Ça,
allez voir au Japon, en
mais
Corée du Sud,
déni,
comment ils sont
Natacha.
Traités. Ensuite, deuxièmement, sur la question de la violence en général et la porosité avec l'école. Oui, c'est vrai, la violence est partout. Nous montrons dans Marianne les statistiques de la violence des mineurs. C'est 9,7% d'augmentation depuis 2010. La violence pure, de plus en plus forte et de plus en plus jeune. Simplement, justement, les professeurs sont très tôt une des incarnations de l'autorité. Ils doivent avoir les moyens de faire respecter les limites très tôt, parce qu'une fois qu'on en arrive au lycée, c'est trop tard. Donc il faut que leur hiérarchie les soutienne. Or, encore une fois, nous sommes encore dans une période, on n'est pas sorti de là, où la hiérarchie préfère ne pas faire de vagues. Les professeurs ont raison.
Il faut que leurs autorités les soutiennent, évidemment. Il faut que la violence soit sanctionnée très tôt, vous avez raison. Mais il faut aussi qu'il y ait un projet qui installe cette autorité. Quand on dit, à l'époque, les professeurs étaient respectés, c'était pas simplement parce qu'il y avait des coups de règle qu'ils étaient respectés. C'était parce que ça faisait partie d'un projet républicain,
évidemment,
dans son ensemble, dont ils étaient l'incarnation, l'avant-garde, et que du coup, ils avaient une légitimité évidente aux yeux de tous. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a ces problèmes de violence, on va parler d'un secteur, en particulier, en l'occurrence, l'éducation,
oui.
Mais en réalité, c'est l'ensemble de la République, à chaque fois, qui est en crise, et qui donc... Quand on a une avant-garde comme l'école, qui est quand même l'avant-garde républicaine par excellence, eh bien, c'est la crise de la République qui se répercute sur le manque d'autorité ou sur la remise en cause de l'autorité
Natacha,
j'aimerais que vous répondiez
mais
sur
y a une perte,
les personnes qui sont dans le déni.
Oui, et ça va avec ce que vient de dire Raphaël. C'est-à-dire que le problème, en effet, c'est celui du sens de l'école républicaine. Le projet républicain, c'est l'émancipation des individus par le savoir. C'est l'idée qu'on va leur apporter ce savoir et qu'ils deviendront des individus libres qui pourront ensuite exercer leur rôle de citoyen. À partir du moment où vous cassez cela, où vous transformez d'abord dans la société les individus essentiellement en consommateurs et rouages du mécanisme économique, et qu'ensuite, dans l'école, vous expliquez que le rôle de l'école, c'est d'épanouir les individus et de les aider à faire fructifier leur capital personnel, mais que ce n'est plus le choix de la République de les élever et de leur donner les moyens de maîtriser le monde, vous tuez le sens du métier de professeur. Et donc, vous n'aidez pas ces professeurs à exercer une autorité et à savoir qu'ils sont légitimes pour imposer des choses à des élèves au nom du bien commun.
Encore un mot, Raphaël, sur le sujet.
On doit évidemment non pas former des rouages, mais former des citoyens et des individus éclairés à l'école. Le seul problème, c'est que les pays, justement, vous avez cité l'Allemagne, où les professeurs sont plus valorisés par la société, ne sont pas les pays qui ont l'école la plus verticale. Et la plus fermée.
Ça veut rien dire, verticale.
Donc,
non, mais c'est la vidéo de ce lycéen qui braquait une enseignante, c'est impensable en Allemagne ?
Ah, non, rien n'est impensable nulle part, parce que de la violence, il y en a partout, c'est pas ça le problème.
Mais il y a quand même une certitude, c'est que il y a des pays où l'école fonctionne mieux aujourd'hui qu'en France, où il y a moins de violence et où les résultats sont meilleurs. Donc,
nous sommes le pays où il y a le plus de problèmes de discipline. Les enquêtes PISA le montrent.
Donc ça veut dire qu'on peut s'inspirer de leur modèle éducatif aussi.
Oui, mais pas uniquement la Finlande sous prétexte qu'il n'y a pas de redoublement. Vous voyez, il faut regarder tous les modèles.
Oui,
et la question de la verticalité.
Mais généralement, quand même, dans la critique de l'école.
Aller dans les classes françaises, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de cours magistral, ça n'existe plus depuis longtemps.
D'accord, mais dans la critique générale, on fait comme si les autres pays n'existaient pas. Or,
il se trouve
que les pays qui ont le mieux réussi ne sont pas les pays des coups de règle et des blouses.
Pardon, mais les premiers dans toutes les enquêtes sur le niveau en lecture, en lecture et en sciences, c'est la Corée du Sud, c'est Singapour. On n'en voudrait pas de ces modèles-là. Ça, c'est vertical.
On peut comparer, bien sûr. On peut comparer aux pays voisins de la France. On fait partie quand même d'un ensemble qui s'appelle l'Europe, et il y a des pays qui sont pas aussi loin que Singapour ou la Corée du Sud et qui réussissent mieux.
Oui, c'est parce que l'Allemagne avait des gros déficits et a agi pour reconstruire un système éducatif qui fonctionne, en effet, parce qu'ils ont regardé les enquêtes PISA et qu'ils se sont dit qu'il y avait un réel problème.
Avant d'accueillir notre invité, encore un sujet.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Sujet d'actualité, Raphaël, vous vouliez revenir sur cette initiative de maires de plusieurs villes françaises, d'ONG, qui ont demandé mardi au groupe pétrolier Total d'agir pour limiter le réchauffement climatique, faute de quoi ils pourraient attaquer Total en justice.
Voilà, et donc ça me semble essentiel en fait, parce qu'il y a comme ça une vague écologique, et c'est formidable, et c'est ultra nécessaire. Et il y a un discours qui tend à dire que chacun est responsable de l'avenir de la planète, ce qui est totalement vrai, qu'il faut économiser l'eau, qu'il faut trier ses déchets. Mais ça, c'est fondamental, il faut le faire. Simplement, ce n'est pas suffisant. Or, pourquoi ce n'est pas suffisant ? Parce que les grandes compagnies pétrolières en particulier sont responsables de la majorité des pollutions. Et que donc, il n'y a que le politique qui peut contraindre ces compagnies à changer le cours des choses et la manière dont elles nous amènent tous dans le mur. Et donc, je trouve ça extrêmement important, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on met, enfin, les principaux pollueurs face à leurs responsabilités. Et c'est ça, l'initiative de ces maires. Et c'est, à mon avis, essentiel. Et ça oblige le gouvernement, à un moment donné, de, s'il veut « make the planet great again », eh bien, de s'attaquer...
Punir.
Ben non, mais oui, d'obliger...
Sanctionner.
D'obliger Total à changer.
Natacha.
C'est vrai à ceci près qu'en fait, là, c'est pas le politique qui reprend la main, c'est le juridique. Et moi, ce que je préférerais, c'est que nous puissions politiquement faire en sorte de ne pas avoir des gouvernements qui soient vendus au lobby. Ce serait, à mon avis, la seule façon réellement de réorganiser la société.
Mais en attendant, puisqu'il se trouve que là, on n'a pas un gouvernement qui a pris ça à bras-le-corps.
Non, pas vraiment.
Voilà, donc en attendant, cette initiative, elle est parfaitement louable. C'est comme ceux qui disent...
Nous sommes d'accord, mais après, c'est la question du rôle du juge par rapport, aux politiques.
Mais regardez aussi les citoyens. Regardez ce moment où Nicolas Hulot quittait le gouvernement. Il était regretté. On se souvient de ses larmes. Moins de 2 mois après, tout le monde se crispe sur l'augmentation des prix du diesel.
Oui, mais parce qu'on a une capacité incroyable à zapper. Et c'est le drame de notre société, et c'est ce qui ne nous permet pas de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, parce qu'en fait, je peux finir. Quand il y a 15 000 scientifiques qui vous disent « demain il sera trop tard » et il y a des mesures simples à mettre en place, eh bien, on est tous alertés, et 2 jours plus tard, on se préoccupe d'autre chose. Là, la véritable question qui est posée, c'est comment fait-on pour que cette transformation écologique qui est absolument nécessaire et qu'on ne doit pas zapper ne soit pas socialement injuste.
Bah, c'est un peu ça le problème.
Et donc
problème.
C'est le transfert, oui, mais c'est que la fiscalité verte doit être une fiscalité de transfert.
Oui, mais il faut surtout réfléchir à l'ensemble du système économique. C'est-à-dire que pour l'instant, on se contente d'augmenter les prix du diesel, de l'essence. C'est très bien. Ça touche ceux qui n'ont pas le choix de ne pas prendre leur voiture, tout simplement parce que la désindustrialisation fait que vous avez des pôles entiers des villes moyennes qui sont en train de crever. Et du coup, le travail est de plus en plus éloigné du domicile. Ou alors, il faut que les gens se regroupent dans les métropoles. Donc, c'est par la réindustrialisation, par la reconstitution de bassins économiques, une relocalisation de l'économie, qu'on peut mettre en place des mesures économiques. Vous ne pouvez pas penser l'un sans penser l'autre.
C'est pour ça que Nicolas Hulot avait raison quand, dans les locaux de cette radio, il a dit qu'il y avait un problème de système.
Bien sûr.
C'est un problème de système.
C'était son pacte écologique de 2006, relisez-le.
Ce n'est pas mesure par mesure qu'on va y arriver.
C'est
en ayant une réflexion systémique.
Mais les mêmes consciences qui s'indignaient de l'augmentation du prix du diesel.
Ben oui, mais parce qu'en fait, il faut un projet global. Et c'est ça que Nicolas Hulot reprochait au gouvernement quand il dit qu'ils n'ont pas pris la mesure des périls et la mesure des transformations à mener. Ouais, c'est qu'en fait, on ne peut pas
faire... Pour l'instant, on fait payer les pauvres.
On ne peut pas faire pas par pas. En fait, l'écologie des petits pas ne fonctionnera pas. Et il faut un projet et que l'écologie soit perçue comme un projet de transformation de la société et pas simplement comme un projet qui va renforcer des inégalités sociales.
Le grand face-à-face continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Et le débat de la semaine, faut-il des limites à la liberté d'expression ? L'invité du grand face-à-face, il est avocat, grand défenseur de la liberté d'expression. Bonjour Emmanuel Pierrat.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, vous publiez Nouvelle Censure, Nouvelle Morale chez Gallimard. C'est passionnant et on va reprendre avec vous quelques-unes des questions que vous posez dans ce livre. Mais on va démarrer avec cette actualité, le décès de Robert Forisson, le chef de file des négationnistes français qui est mort, pas ses idées. Vous-même avez régulièrement dit que vous étiez critique, peut-être même hostile à la loi Guesso qui punit le négationnisme parce que c'est une loi contre-productive, parce qu'elle fait des négationnistes des martyrs. Est-ce que vous maintenez cette position ?
Oui, bien sûr. Je l'ai écrit encore mardi dernier pour saluer, entre guillemets, je ne sais pas si on peut saluer la mort de quelqu'un, en tout cas on peut ne pas regretter son départ,
oui.
Celui de Robert Forisson. Il y a une position compliquée, hein, une ligne de crête à tenir, qui consiste d'un côté à dénoncer ceux qui dénoncent, ceux qui contestent, pardon, la Shoah, l'horreur suprême selon moi, et puis de l'autre côté, voir avec de quelle façon ils retournent les armes que nous avons voulu utiliser contre eux. En 1990, lorsqu'on a voté la loi Guesso, Pierre Vidal-Naquet disait « nous faisons une erreur ».
L'immense historien dont le père,
avocat, a été déporté et mort à Auschwitz.
Et qui avait débusqué Robert Forisson.
Il n'était pas le seul. Il y avait des gens très détestables qui étaient contre l'adoption de cette loi. Hein. Ne nous trompons pas. Il y avait des esprits, on va dire, clairement antisémites, hein, qui, effectivement, ne voulaient pas que les propos négationnistes soient pénalisés. Mais il y avait des gens très bien, des historiens extrêmement sérieux, Jean-Pierre Azéma notamment, qui pensaient qu'effectivement, ça n'était pas à la loi et au juge d'écrire l'histoire, et surtout qu'on allait draper ces gens dans la victimisation et la martyrologie. Et aujourd'hui,
et c'est ce qui s'est passé,
Robert Forisson disparu. Sur Internet, vous avez un site très sympathique qui s'appelle l'Association des Amis d'Authentiques Récits de Guerre et d'Histoire. C'est un site, on va dire, plus ou moins caché et clandestin, où vous trouvez deux choses. Les condamnations dont Robert Forisson, Racigny et quelques autres ont fait l'objet, et l'avis d'Albert Londres. C'est-à-dire, en gros, une assimilation de leur cause et de leur lutte, entre guillemets, à celle qu'a menée l'immense journaliste Albert Londres, qui a connu aussi quelques tracas avec la justice. Donc, des rapprochements qu'utilise très bien Dieudonné, si je puis me permettre, hein, très bien, avec beaucoup de guillemets, qui, à chaque fois qu'on l'attaque, effectivement, fait une vidéo sur YouTube, vue par des centaines de milliers de personnes, en criant à la censure, et évite avec ainsi tout débat.
Raphaël, une attache.
Je suis d'accord qu'il y a un risque dans les lois mémoriales, et je fais très attention, justement, quand je m'exprime. Mais le problème du négationnisme, c'est que le négationnisme n'est pas simplement un point de vue, c'est ça fait partie du projet génocidaire lui-même. C'est-à-dire que les nazis ont voulu faire sauter les chambres à gaz pour nier le crime en le commettant, à la fin, quand Auschwitz allait être libéré par l'armée rouge. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé au Rwanda, c'est-à-dire qu'un discours négationniste est d'emblée intégré dans la logique génocidaire pour dire que ce crime ne sera jamais connu et sera nié. Donc quand on recourt au négationnisme, en fait, on continue le crime. On est au-delà d'une simple opinion. On est dans la logique même de ceux qui perpétuent ce crime absolu. Et donc, il me semble que si on limite de manière extrêmement claire au cas des génocides, par exemple, eh bien, il est tout à fait possible que la loi sanctionne un discours négationniste.
Emmanuel Pierrat.
Nous en sommes d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a une ligne de crête très compliquée à tenir, et je considère que les négationnistes non seulement contestent la Shoah, contestent aussi les décisions du tribunal de Nuremberg, qui me semblent fondamentales, parce qu'ils ont jugé les bourreaux et les génocidaires, pas tous, mais ils ont marqué juridiquement quel était le camp et ce qui était possible et ce qui était inadmissible. Et la contestation de tout cela, enfin Forisson et consorts, c'est une contestation générale de tout cela. Et je suis d'accord, ça s'inscrit dans un processus global, pensé depuis le début, qui consiste à ce que le négationnisme fasse partie de la destruction. Donc c'est très compliqué de contourner ou d'arriver avec des instruments juridiques, malgré tout, à les museler. Encore une fois, sur le principe, j'en suis plutôt d'accord, même si vous l'avez compris, je suis un partisan très farouche de la liberté d'expression. Ma difficulté, c'est l'effet collatéral que l'on produit à la question La vraie question derrière, c'est quel message on envoie à des jeunes gens égarés dont l'esprit est confus aujourd'hui entre le Proche-Orient, l'antisémitisme, l'antisionisme, beaucoup de choses très compliquées avec des discours simplistes qui utilisent, encore une fois, la victimologie.
Oui, on va y venir, Natacha.
Justement, voilà, j'allais y venir. C'est-à-dire que sur le fond, Raphaël, je suis d'accord sur l'analyse de ce qu'est le négationnisme, mais je pense qu'il ne ressort sans doute pas de la loi d'empêcher cela. Pourquoi ?
Vous êtes parce que la loi Guesso, Natacha ?
Moi, j'appartiens à un journal, Marianne, qui s'est battu toujours contre toutes les lois mémorielles, justement parce que
il y avait,
et en premier lieu celle-là, la première, tout simplement parce que l'idée était de dire que on commence petit à petit à induire le fait que d'abord, en effet, on les place en victimes, ces négationnistes, et ensuite qu'il devrait y avoir une judiciarisation permanente de tout l'espace public et de l'analyse de ce qui est dissible ou non dissible. Or, on le voit aujourd'hui dans une concurrence victimaire qui s'appuie sur la loi Guesso.
Là-dessus, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, il y a quand même une différence entre dire que tout doit relever du juridique et le cas spécifique des crimes contre l'humanité et des génocides. C'est un cas qui est à part. On ne peut pas dire que... Justement, il y a un problème de hiérarchisation, en fait, ensuite, dans l'opinion. Mais c'est un cas à part.
J'en suis d'accord, Raphaël Guzman. Attendez, ne vous trompez pas. Moi, je considère, à la différence de Natacha Apolloni, que j'écoute toujours avec attention, que les lois mémorielles sont importantes. Que la reconnaissance des génocides, par la loi, par le Parlement, par l'Europe, sont extrêmement fondamentales. En revanche, je ne suis pas d'accord avec la loi qui suit, c'est-à-dire celle qui consiste à pénaliser les propos qui contestent, pardon, le génocide. C'est-à-dire,
au nom de l'efficacité de la loi.
Voilà, au nom de l'efficacité. D'un côté, on peut considérer dans une loi mémorielle que le drame le plus extraordinaire au sens étymologique du terme est arrivé et qu'il faut en prendre toute la mesure. Et de l'autre côté, penser que l'efficacité ou la mesure à prendre, entre guillemets, derrière, pour lutter contre ces mêmes discours, doit être autre que la simple interdiction.
Mais hier, on entendait Emmanuel Pierrat.
Je suis pour la reconnaissance du génocide arménien, je suis pour la reconnaissance du génocide rwandais, je suis pour la reconnaissance, malheureusement, de trop de génocides, et en même temps, un farouche tenant contre les lois liberticides en termes de liberté d'expression.
Mais c'est intéressant parce que hier matin, Emmanuel Pierrat, je voulais juste préciser qu'hier, on entendait dans la matinale de France Inter des archives que diffusait Yael Gauz et où on entendait, et c'était très frappant, Robert Faurisson, invité en 1980 dans la matinale d'Europe 1, des millions de Français l'écoutaient, il avait une grande audience, il était invité en 87 sur France 3, deux semaines avant l'ouverture du procès de Klaus Barbie, donc il avait une audience absolument considérable. Renvoyer les Faurissons et les autres dans la clandestinité, c'est comparable, ça ferait encore plus d'audience pour eux.
Ça leur fait une nouvelle forme d'audience. Ça les drape dans une certaine légitimité qui est celle de la condamnation sur un fondement qui est l'interdiction de parler, qui n'est pas la démonstration par l'éducation, par l'histoire, de l'aberration et de la fausseté et du mensonge qu'ils propagent. Ceci dit, Robert Faurisson, quand vous lisez ses propos, c'est terrifiant. Quand vous relisez, comme je l'ai fait cette semaine, ce qu'il disait lorsqu'on a voté la loi Guesso, il dit c'est un complot judéo, je ne sais plus quoi, mondial. On est dans un dingue absolu. Absolu, extrêmement dangereux. On n'est pas du tout dans un sympathique pseudo-historien qui aurait avancé des thèses un tout petit peu dérangées. Donc ces gens sont des malades, nous en sommes d'accord. Je ne suis pas sûr qu'encore une fois, la cellule ou la prison soit la bonne solution pour soigner les dingues. Et soigner surtout, ou éviter qu'ils ne contaminent de nouveaux citoyens.
Raphaël,
Moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'avoir open bar dans les médias de grande écoute pour ces thèses-là, eh bien ça ne les coupe pas d'audience, au contraire, ça leur en donne, et que montrer que ces thèses-là ne sont pas des thèses à discuter parmi d'autres, mais qu'elles sont profondément criminelles parce qu'elles sont enracinées dans un projet qui lui-même est criminel et une idéologie qui elle-même est criminelle, eh bien, peut-être que des marginaux qui peuvent être extrêmement nombreux et qui, par esprit subversif, vont en faire des icônes, mais ils ne sont pas dans le débat commun des opinions qui s'affrontent et qui font la démocratie. C'est hors champ. Et il est important pour une société, je pense, de maintenir une forme d'hors champ.
Et on va justement avancer dans le débat parce que dans votre livre, Emmanuel Pierrat, vous abordez un très grand nombre de cas et on parle de ce cas absolument extrême qui est le négationnisme. Mais vous affrontez la question de la réédition de Mein Kampf, par exemple, où le débat s'est posé en Allemagne. Il s'est posé également en France. Vous abordez la question de la publication des écrits antisémites de Céline avec toujours l'idée qu'on peut faire confiance aux lecteurs, qu'on peut faire confiance aux citoyens, qu'interdire, finalement, ça ne sert à rien.
On peut lui faire confiance à condition de lui donner les instruments et les explicatifs. Pierre Vidal-Naquet disait « Laissons parler fort, ils sont, mais exigeons d'une certaine façon que je puisse préfacer ces livres ». Il disait, évidemment, le revers de la médaille, ça serait que Forisson va devenir mon préfacier. Donc, ce qui n'est pas particulièrement agréable. Mais c'était ça, l'idée. Et l'idée, en rééditant Mein Kampf, en le contrôlant, en contrôlant la réédition, avec un appareil critique digne de ce nom, c'est un projet qui est porté par un mouvement qui s'appelle Respect Zone, dirigé par mon ami Philippe Cohen, avocat. L'idée, c'est de faire une édition de référence et non pas une édition faites par des néo-nazis, comme c'est le cas actuellement, en France ou dans les pays arabes, qui se débarrassent de toute prévention et est présenté comme un texte en quelque sorte moderne et parfaitement adapté. Voilà, c'est la même chose avec les pamphlets de Céline. Il ne faut pas oublier que les pamphlets de Céline vont tomber dans le domaine public d'ici quelques années, une quinzaine d'années, et que d'art, nous allons devons devancer cette difficulté. Parce qu'à ce moment-là, dans le domaine public, tout le monde pourra les publier. Et ils sont déjà achetables dans la clandestinité, ils sont déjà achetables en ligne sur le Dark Web sans aucune précaution. Ils sont réédités par les pires esprits. Et il faut mieux que ça soit Gallimard, éditeur de Céline, qui utilise un appareil critique, une vraie préface, pas en reprenant d'ailleurs l'édition québécoise. C'était le projet initial, parce que l'édition québécoise dit écrits polémiques. Ce sont pas des écrits polémiques. Ce sont des écrits antisémites et odieux. Donc il y a une confusion, ne serait-ce que dans le titre. Il faut faire un vrai travail sérieux, avec Pierre Assouline et d'autres, et puis publier pour prévenir.
Pour le moment, Gallimard ne veut pas en entendre parler.
Je pense que ce qui est très intéressant... Non,
Gallimard a repoussé le projet, c'est différent. Je crois que c'est mon éditeur.
Sous la pression. Non, ouais. Ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit là, dans les cas que nous venons d'aborder, une grande complexité, et en effet, il est nécessaire toujours d'être sur la ligne de crête, je suis d'accord. Mais vous allez aussi explorer la question des nouvelles censures qu'on voit sur les différentes formes d'art, sur l'interdit désormais posé pour un artiste blanc d'évoquer un sujet qui concerne la cause des Noirs, ou tout ce genre de choses. Et sans doute que le lien qui est à faire dans tous les cas que vous citez, Ali vient de le souligner, c'est le fait que vous faites appel à l'intelligence et à l'émancipation par le savoir, c'est-à-dire la réflexion. C'est-à-dire que face la nécessité, c'est d'éduquer les citoyens pour qu'ils soient capables par eux-mêmes de décider ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Or, tous les cas que vous citez sont des cas où on décide que, en gros, les citoyens sont des abrutis et qu'on va leur dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est profondément dangereux, me semble-t-il.
Bien sûr, en demandant de choisir son camp, c'est-à-dire ou pour les droits des uns ou pour ou contre, en quelque sorte, la liberté d'expression. Et moi, je suis partisan, je me crois féministe, je me crois pas du tout homophobe, je me crois très largement anti-antisémite et anti-raciste. Je pense que je n'ai pas de bravoure, enfin de diplôme, pardon, à revendiquer sur ce terrain-là.
Non.
Et en même temps, encore une fois, partisan de la liberté d'expression la plus grande, la plus possible, pas absolue nécessairement, mais en tout cas la plus large, largement plus grande que celle qui existe aujourd'hui dans la République française, où la Déclaration des droits de l'homme de 1789, acquis très cher à mon cœur, la Révolution dans son ensemble, porte le principe de la liberté d'expression, aujourd'hui contredite par 450 de textes de loi dans notre belle République qui vont de la diffamation à l'atteinte à la vie privée en passant par les bonnes mœurs.
La Déclaration des droits de l'homme dit tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est-à-dire que vous adorez la Déclaration des droits de l'homme de 1789, sauf
Je n'aime pas le sauf. Je n'aime pas le sauf. Pourquoi ? Parce que le sauf est intéressant. Il est la petite virgule qui permet de respirer et d'éviter d'être comme les États-Unis avec des brassards néo-nazis qui défilent dans la rue et le Ku Klux Klan qui enflamme des croix devant les voisins noirs. Le sauf, la difficulté du sauf pour nous, c'est que nous n'avons pas fait attention à ce qu'on mettait derrière. Et qu'à chaque problème de société que nous rencontrons, un discours d'apologie du terrorisme ou d'Al-Qaïda ou de Daesh, une difficulté concernant, j'en sais rien, le traitement du secret des affaires, les fake news, la présomption d'innocence, nous ne réfléchissons plus et nous votons une loi de censure à l'Assemblée nationale parce que les censures partent toujours d'une bonne intention. protéger la jeunesse, et préserver notre santé, nous imposer, entre guillemets, de moins fumer, ainsi de suite. C'est toujours une
respecter
bonne idée. Et le résultat, c'est que c'est toujours un dégât ou un désastre, pardon, pour la liberté d'expression et l'histoire culturelle.
Raphaël, bien sûr qu'il y a une dérive. Et ça, vous l'explorez dans le livre. Et sur beaucoup de points, je suis assez d'accord sur cette dérive. En particulier quand elle touche à l'art et quand on se met à réécrire des œuvres d'art pour que la fin soit différente.
C'est Carmen. Carmen, c'est l'opéra de Carmen, notamment.
Donc, il faut publier Tintin au Congo.
Donc, attendez, moi, j'ai un vrai désaccord, par contre. C'est que, à contrario, eh bien, pour moi, l'exemple américain est un contre-exemple. C'est-à-dire que je pense que la République française s'est constituée depuis l'origine. On n'a pas demandé aux familles si elles voulaient mettre leurs enfants à l'école. On a imposé une contrainte. Et dans cette confiance que vous accordez absolue à l'ensemble des individus, eh bien, je pense que là-dessus, vous êtes un peu dans l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui suis censé être le bobo gaucho bisounours, tout ce que vous voulez imaginer.
Mais si.
Moi, je suis pour une forme, effectivement, de capacité qu'a une société qui se constitue en république de mettre certaines idées hors champ. Tout ne se débat pas de la même manière et toutes les idées ne se valent pas. Et que l'État en tant que représentant de la nation peut décider d'exclure une forme idéologique de son spectre. Et par ailleurs, il y a quand même une question, par exemple on parlait des pamphlets antisémites de Céline, c'est que c'est pas simplement des mots, c'est des exhortations, et que ça s'appelle de l'incitation à la violence. Et donc il y a pour moi une limite en fait, à la liberté d'expression. Et effectivement, c'est toujours une question extrêmement complexe parce que le sauf, on peut mettre 10 000 mots derrière le sauf et dans ce cas-là, on tombe dans
une
société...
On va laisser Maître Pierre vous répondre et puis Natacha.
Oui, Raphaël Guzman, ne vous trompez pas, je crois qu'on est sur la même ligne aussi parce que je suis un tenant de la République du droit et de la loi. Qui me semble effectivement le curseur nécessaire, l'articulation nécessaire avec l'expression démocratique. C'est l'expression démocratique, d'ailleurs, la loi. Donc, il y a cette articulation qui permet de considérer que la virgule ou le sauf ou la réserve peut exister, mais qu'on doit le faire avec beaucoup de précautions. La liberté d'expression, vous le savez, et nous en jouissons ici, en France, sur cette antenne, dans beaucoup de médias auxquels vous contribuez, beaucoup d'éditeurs chez lesquels nous publions. Mais c'est un principe qui est minoritaire sur cette planète. Nous sommes une trentaine, une quarantaine peut-être d'États à pouvoir en jouir sur 197. Dans les autres, le principe, c'est l'interdiction. Moi, ma difficulté, c'est que cette liberté d'expression est attaquée de toutes parts aujourd'hui. Elle est attaquée par la loi, elle est attaquée par les lobbies, par des groupes, par des associations qui ont privatisé la censure. C'est plus l'État, mon ennemi. Mon ennemi, c'est une ligue de vertu. C'est même une ligne, parfois, une ligue de droits humains. C'est vous, c'est moi, c'est tout un chacun, une entreprise qui attaque un roman, une œuvre d'art. C'est un groupe, quel qu'il soit, aussi légitime soit-il à s'exprimer et à revendiquer la fin d'une domination, l'expression d'une minorité. Tout cela me va très bien. Notre difficulté, c'est aussi la privatisation par l'argent, c'est-à-dire les demandes de dommages et intérêts qui se substituent à l'interdiction pure et simple. C'est moins visible, c'est beaucoup plus efficace. Ça fait moins parler
dans
la presse.
Dans les cas d'atteinte à la vie privée, par exemple.
Évidemment,
non, pas
uniquement.
Pas seulement.
Quand je plaidais pour Michel Houellebecq, la Ligue islamique mondiale nous demandait 1 million. Donc, ne demandait pas l'interdiction de plateforme, on nous demandait 1 million. Ah oui. Quand je plaide contre l'Opus Dei, c'est 800 000 euros pour un romancier. Donc, on ne me demande pas l'interdiction d'un livre. Ils savent que ça serait une mauvaise publicité. Ce qu'ils réclament, c'est des dommages à intérêt, parce que des dommages à intérêt à 800 000 euros, c'est la fin du catalogue d'une maison d'édition.
Non,
et sur le côté incitatif des écrits de Céline, moi, j'en suis moyennement convaincu, mais peut-être parce que, effectivement, je ne suis pas client, si je puis me permettre, de ce discours-là, même si je suis un célinien amoureux du romancier. Je crois qu'il y a des romans qui peuvent être à ce tone-là aussi dangereux, ou qu'en réalité, aucune démonstration scientifique n'a jamais été faite de la corrélation entre une œuvre d'art, un récit et le fait que des citoyens d'un seul coup prennent les armes.
Ce ne sont pas des œuvres d'art.
Non, c'est compliqué.
Les écrits antisémites de Céline ne sont pas des œuvres d'art.
La ligne de partage est très difficile à faire. Quand on attaque Harper Lee et ne tirez pas sur l'oiseau moqueur parce qu'il y a le mot nègre utilisé dans un sens sans ambiguïté à de nombreuses fois par cette romancière, on est dans des livres, pardon, qui s'inscrivent dans les mêmes collections, dans les mêmes rayons presque. Parce que la difficulté, c'est la nuance. Messieurs. Et c'est qu'on, malheureusement, on ne peut pas avoir des grandes catégories où d'un côté, on aurait les essais puants qu'on peut facilement interdire et de l'autre côté, uniquement les œuvres.
Je suis le président de ce tribunal et je donne la parole à Natacha.
Oui, et je pense que, en effet, le sujet le plus essentiel aujourd'hui, parce que il est celui qui attaque véritablement la liberté d'expression, c'est celui non pas de l'État et de la façon dont de savoir si l'État doit interdire, c'est celui des minorités qui utilisent le bien commun pour essayer d'interdire et de faire pression dans un sens qui est celui qui les intéresse. C'est-à-dire que nous avons importé un système qui repose sur l'organisation sociale anglo-saxonne, en particulier américaine, c'est-à-dire le libre jeu des minorités qui permet de faire émerger le bien commun à travers la recherche d'intérêts particuliers. Et c'est en fait ces intérêts particuliers qui aboutissent au bien commun.
Ce ne sont pas forcément les intérêts particuliers.
Alors, ça s'appuie au départ sur l'idée qu'on va défendre une juste cause. Et c'est bien ça qui est problématique. Mais derrière, nous avons le fait que ce sont des interdits qui sont posés. Et tous les exemples que vous citez dans le livre, Emmanuel Pierrat, relèvent de cela, et en particulier sur la question du communautarisme.
Des minorités ont le droit de dire qu'elles sont choquées par une œuvre d'art. Ça ne veut pas dire qu'elles vont le faire interdire. Elles ont le droit de dire qu'elles ont
le droit de dire et la pression. Et c'est tous les exemples que montre Emmanuel Pierrat.
L'art n'est pas sacré.
Non.
Donc on peut juger qu'une œuvre est offensante. La question de l'interdiction est une question différente qui relève de la loi.
Regardez l'état actuel du débat
Natacha,
public, il y a une pression.
Vous faites dévier le problème. Moi, je suis évidemment contre que des groupes privés s'arrogent le droit d'interdire. Mais c'est pas ce qui se passe. Elles s'arrogent le droit de faire des campagnes si elles veulent.
C'est tout le sujet du livre.
Mais elles ne s'arrogent pas le droit d'interdire. Or, la question de l'interdiction et de la limitation de la liberté d'expression, c'est celle de la communauté politique. Or, moi, je pense qu'une communauté politique a le droit. Parce que c'est ça qui la constitue, de décréter que certaines choses ne se font pas.
Notre difficulté, encore une fois, Raphaël Glucksmann et Natacha Polony, c'est que d'un côté, nous avons effectivement quelque chose qui dépasse les minorités. Pour moi, l'expression des revendications anticoloniales, c'est quelque chose qui dépasse les minorités. Ça dépasse une minorité noire ou une minorité colonisée ou racisée, pour utiliser des néologismes qui courent. Et qu'on peut se reconnaître, dans la dénonciation ce qui s'est passé. Dans la dénonciation, effectivement, du faible nombre de peintres noirs dans un musée, etc. En revanche, la difficulté, c'est que ça ne se règle pas par la loi. Ça se règle par une forme d'autocensure. C'est-à-dire que la pression n'est pas une pression qui pèse sur le législateur. On ne prend pas nécessairement une nouvelle loi, mais l'autocensure est si forte que le musée se sent obligé, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas désormais en Angleterre, ça sera peut-être le cas demain matin en France, de décrocher certains tableaux et de remplacer d'autres. Et là, il y a quelque chose qui est exactement contraire aux principes pour lesquels nous combattons. Nous combattons pour la plus grande possibilité pour chacun de jouir de la culture et de créer. Et nous nous retrouvons avec un système dans lequel, effectivement, l'appropriation culturelle et ce néologisme qui interdit à quelqu'un qui n'est pas de la même couleur de peau de peindre une scène qui, a priori, lui serait étrangère. Voilà. La conciliation est difficile entre la revendication que nous exprimons tous, unanimes autour de cette table, et les effets, les dégâts incroyable.
Vous êtes désintéressé parce que s'il n'y avait pas assez de lois, vous seriez au chômage, Maître Pierrat, je dis avec le sourire. Mais en l'occurrence, l'injure,
je rêve d'être
par exemple.
Au chômage. Je suis un utopiste et un citoyen avant d'être un avocat.
C'est pas près d'arriver, mais en l'occurrence, l'injure, par exemple. Est-ce que vous êtes contre les lois qui punissent les injures à caractère racial, par exemple?
Je ne suis pas contre la plupart des lois qui punissent les injures à caractère racial et les incitations à la haine. Je suis contre, le fait qu'elles soient aujourd'hui mises sur le même portée ou la même valeur que les lois sur la vie privée.
Comment ça ?
Par exemple, ou la loi Evin sur le tabac et l'alcool, qui sont certes des fléaux importants, mais qui me semblent pour l'instant dans mon échelle de valeur légèrement inférieurs. Parce que c'est puni de la même façon. Le législateur a ses 450 textes qui aujourd'hui vont tous devant la 17e chambre, la chambre de la presse, dont je suis un habitué, où nous plaidons indifféremment pour l'interdiction d'une cigarette dans la bouche d'André Malraux sur une photo prise par Gisèle Freund et sur un propos de Forisson de Dieudonné incitant à la haine raciale. Et ça n'est pas possible de considérer que c'est de la même valeur. Il y a des choses extrêmement graves dont la société doit prendre la mesure et une façon liberticide de traiter de façon générale la culture et l'information qui me semble problématique.
Natacha Akès, pour ceux qui n'ont pas l'image.
D'accord. Simplement, le problème, c'est que il faut rétablir une hiérarchie. L'injure raciale n'est pas la cigarette ou n'est pas le sexe féminin dans un tableau. Simplement, a contrario, il ne faut pas abolir la hiérarchie pour dire que tout se vaut, que tout est possible.
Non, mais on va rester là,
Céline n'est pas Courbet.
Bon, on va rendre, on va rendre l'antenne. Vous n'avez pas dit ça, Natacha.
Là, si vous êtes pour autoriser les écrits antisémites de Céline de la même manière que...
Pas de la même manière, justement. En tout cas, c'est passionnant. Tout le débat.
Et ça fait partie, justement, de ces nombreux exemples que vous analysez dans votre livre Emmanuel Pierra, Nouvelle morale, nouvelle censure. C'est publié chez Gallimard, l'éditeur de Céline également, et de Houellebecq et de tant d'autres. Natacha, Raphaël, à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, Fred Milano, à la technique, Paul Percheron. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques. À suivre sur France Inter, les secrets d'info avec Benoît Colomba autour de la pédophilie dans l'église, les raisons de l'omerta.